LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Alors là, bien sûr, il y a déjà du plastique, on va pas aller le chercher. Hein.
Comment ?
Là, il y a déjà du plastique, mais il y a des gros morceaux, mais on peut pas y aller.
Là, on peut pas y aller, c'est une...
Non.
Falaise. Du coup, on descend dans la petite crique de roche percée.
Exactement. De toute façon, ça glisse un peu ici. En fait, là, on est sur le sentier côtier. Et cette plage, enfin, cette petite criquette, je la trouve intéressante parce que il y a justement cette eau douce qui arrive sur la plage. Il y a deux univers qui se rencontrent. Il y a la mer d'un côté. Et puis, il y a la terre. Il reste quand même cette partie aquatique avec l'eau douce. Là, c'est très emblématique de ce qui se passe en Bretagne. On a l'écoulement de rivière avec les fameuses algues vertes. Et puis là, en face, on a la mer qui est en train de monter, mais qui a laissé quand même un premier passage de marée. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a déjà des morceaux de plastique. Là, en l'espace de 2 secondes, j'en ai vu quelques-uns. Je commence à prendre mon petit sac. Là, c'est pratique parce qu'en fait, la laisse de mer, elle est un peu éclatée.
La laisse de mer, c'est les algues qui font une sorte de trait.
Exactement, quand on vient
en haut de plage.
Exactement. Et le problème, c'est que c'est souvent dans ces laisses de mer qu'il y a le plastique qui s'est aussi coincé dedans. Ça a l'air d'être un morceau de casier. Mais souvent, on a des petits morceaux de bouchons, des bâtons de sucette ou de coton-tige.
Ah, il y a du polystyrène.
Ça fond bien, ça.
Dans les vestiges des anciens climats. Une série documentaire d'Aline Pénito, réalisée par Gilles Blanchard. Épisode 3. Lire les tréfonds des océans. Cela commence par un son. Un simple son de vague enregistré sur la côte atlantique. Que charrie cette vague sur la côte? Des sédiments, du sable, des algues, des organismes, des microfossiles, de l'air. La Terre est bleue depuis 4,5 milliards d'années. L'océan échange continuellement avec l'atmosphère. L'océan est un puits de carbone, en grande partie grâce au phénomène planctonique. Il absorbe un quart du CO2 produit par les humains, et concentre 50 fois plus de carbone que l'air. En captant la chaleur du soleil, il est le régulateur des climats du monde. Alors que la température monte, l'océan se dilate et aujourd'hui, il peine à respirer. En un peu plus de 2 siècles, l'acidité a augmenté de 30%. Si comme l'annonce le GIEC, la hausse des températures s'élève bien au-delà des 2 degrés Celsius, on pourrait s'attendre à une hausse du niveau global de la mer de 2 à 4 mètres par siècle durant le prochain millénaire. Que savons-nous de l'évolution climatique passée des océans, avant l'Anthropocène, avant que les hommes soient devenus des agents géologiques à même de dégrader de manière radicale la planète? Qu'est-ce que le passé des océans nous apprend sur l'évolution actuelle des climats? Avons-nous atteint un seuil au-delà duquel les changements rapides et abrupts s'opèrent dans un écosystème? Avons-nous atteint un point de bascule? En 2023, je me rends compte que plus rien ne sonne pareil. Même une simple vague semble faire remonter des tréfonds de nouveaux sédiments concentrés en plastique.
Ah, il y en a plein là. La mousse.
La mousse qui ressemble à de l'éponge de mer.
Ça n'arrête pas là.
Ouais, là.
Donc là, on a 1 minute de recherche sur une plage et on a un tiers de sac rempli.
Ouais, exactement.
Et on sait aussi maintenant qu'une minute pour l'océan global, déverser un certain nombre de tonnes déversées par minute.
Par minute, je crois que c'est 19 tonnes.
19 tonnes par minute.
C'est 19 tonnes par minute, c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui se déverse dans l'océan. On est dans une petite criquette qui est assez protégée, mine de rien. Et il y a surtout la rivière qui se découle ici. Alors il faut savoir que le plastique qu'on va trouver en mer, c'est quand même 80% qui vient des terres et 20% qui vient de la mer.
On sait depuis la moitié du 19e siècle que la Terre a été soumise à des larges changements climatiques entre des périodes glaciaires qui sont caractérisées par des larges extensions des calottes polaires dans l'hémisphère nord et des périodes interglaciaires chaudes dans lesquelles ces calottes étaient vraiment réduites et ils occupaient seulement le Groenland.
Fernanda Sanchez Goni, paléoclimatologue.
Et pour le dernier million d'années, avec une cyclicité de 100 000 ans. Donc ici, on parle des changements climatiques à long terme.
Tous les 100 000 ans, la Terre serait en glace.
Tout à fait.
Et à quoi elle ressemble à ce moment-là?
Mais à ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, dans le golfe de Gascogne, pendant des événements froids, vous pouvez avoir des icebergs. Ça veut dire que c'est très difficile de faire du surf dans de telles conditions. Vous avez la neige, enfin la glace qui arrive jusqu'à New York et la glace qui arrive jusqu'à Londres. Et on peut voir par exemple à Central Park, à New York, justement des témoins avec des roches qui sont striées par cette extension des calottes polaires.
Qu'est-ce qui fait qu'on sort d'une période glaciaire?
Ces périodes glaciaires interglaciaires sont causées à l'origine par des changements de la distance de la Terre par rapport au Soleil, qui fait que la Terre reçoit moins de chaleur. Pendant qu'il y a une déglaciation, ça veut dire que la distance de la Terre au Soleil est moindre, et donc vous avez les pôles qui sont très chauffés, et ça commence la fonte des calottes polaires de l'hémisphère nord.
Là, il y a des changements dans la circulation océanique ?
L'énergie solaire arrive de façon différente à l'équateur qu'au pôle. Ça veut dire qu'à l'équateur, vous avez les rayons solaires qui arrivent d'une façon perpendiculaire et c'est comme s'il y avait un radiateur dans une petite salle. Par contre, au pôle, ces rayons solaires arrivent d'une façon oblique. Ça veut dire que c'est une plus large surface qui va être atteinte par ce rayonnement solaire. Et donc, vous avez moins de chaleur qui est reçue. Cela fait que vous avez un déséquilibre thermique entre l'équateur et les pôles. Et pour contrebalancer ce déséquilibre thermique, à ce moment-là, vous avez des courants chauds qui vont du golfe de Mexique jusqu'au nord de l'Europe, surtout dans les mers nordiques. Donc vraiment, tout ce qui est redistribution de la chaleur sur la Terre est surtout dominé par ce qui se passe dans l'océan Atlantique Nord.
Tout l'enjeu de la paléocéanographie est de reconstruire ces changements de circulation océanique et de comprendre comment ils interagissent avec le climat de surface pour imaginer comment ces différents composants vont réagir et s'accommoder des changements qu'on leur impose.
Claire Valbruck, paléoclimatologue.
Pour comprendre ce qui se passe actuellement, on a besoin de le situer par rapport à l'amplitude de variations d'origine naturelle et on a besoin de mieux comprendre tout ce qui se passe sur le plan naturel avant d'être capable en fait de prédire et de faire des projections un peu solides de ce qui va se passer maintenant dans les décennies qui viennent.
La circulation océanique explique le fait que les masses d'eau dans l'océan circulent comme un gros tapis roulant en fonction de la densité des masses d'eau. Donc par exemple, dans les zones polaires et froides, on a de l'eau qui est peu salée mais très très froide et du coup dense, qui plonge sous les autres masses d'eau. Et cette masse d'eau, elle reste au fond de l'océan pendant qu'elle traverse tout l'Atlantique et ensuite le Pacifique et ensuite l'océan Indien.
Clara Bolton, paléo-océanographe.
Et donc cette eau, au cours du temps, elle accumule du carbone qui tombe dessus de ce qui se passe en surface, hein, de la production biologique qui se passe en surface, et ça change la composition isotopique de cette masse d'eau et la composition chimique aussi. Et ça nous permet de pouvoir tracer la circulation océanique en mesurant, ou aujourd'hui en mesurant directement l'eau, et dans le passé en regardant des fossiles d'organismes qui ont vécu dans différentes masses d'eau à différents moments. Donc on peut essayer de déduire comment la circulation se comportait sous différents climats.
Là, il y a un petit bleu là-bas encore.
Il y a un petit fuchsia.
Ah, ça c'est un bout de stylo bic. Là, j'ai l'impression d'en voir partout, en fait, maintenant.
Quand on commence à en voir un...
C'est ça.
C'est on en voit plein. Là. C'est comme quand on fait de la recherche de coquillages, un peu. Je faisais ça quand j'étais
petit. Ouais, mais là, c'est... en plus, ils sont encore rouges, bleus.
Ça serait presque joli.
Esteban Richard est plasticien et designer.
Là, quand on regarde la roche, est-ce qu'on pourrait parler d'un conglomérat?
Là, non. Un conglomérat, c'est deux roches qui vont fusionner et qui vont être liées entre elles par un ciment qui va être plus ou moins naturel. Et des fois, ce ciment, il ne l'est pas naturel. Le plastique joue ce rôle de ciment. C'est ce qu'on va appeler le plastigglomérat.
Donc ça, c'est quelque chose que les géologues ont...
Alors, les géologues l'ont identifié. Je pense que les premiers à l'avoir identifié, c'est les personnes qui vivent à Hawaï. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une nouvelle typologie de roche qui est apparue, qu'ils ont appelée le plastigglomérat. Et le plastigglomérat, c'est tout simplement une accumulation de sédiments, de roches volcaniques, de coraux, de coquillages qui, en fait, rentrent naturellement dans une composition géologique. Sauf que là, maintenant, ce mélange se fait avec du plastique. C'est comme si là, on avait un caillou avec du plastique à l'intérieur, en fait, tout simplement. Là, on a des bouts de filets de pêche ou des bouchons qui auraient été plus ou moins fondus et qui auraient roulé et qui auraient... avec eux, emprisonner tout un tas de sédiments. Et c'est ce qu'ils ont appelé le plastigglomérat. Et
donc, avec une forme de ciment.
Avec ce ciment, en fait, qui est le plastique fondu. Ben, en fait, ils trouvaient beaucoup de ces nouveaux plastigglomérats qui étaient dus, en fait, aux activités de feu, en fait, de camping, de gens qui... Là, ce qui est intéressant à Hawaï, c'est qu'on a plusieurs gyres océaniques, donc c'est des courants marins, qui en a plusieurs dans l'océan. Il y en a deux dans l'Atlantique, dans le Pacifique, qui font en fait venir les plastiques. C'est comme des tourbillons de courant qui font venir les plastiques à un endroit précis. Ce qu'on appelle en fait les continents de plastique. En réalité, il y en a cinq. Et Hawaï n'est pas très loin d'une de ces gyres océaniques. Ce qui fait que il y a énormément de pollution plastique qui arrive en surface et aussi sous la mer, bien évidemment. Et allié avec une activité touristique, etc., en fait, ces plastiques se font fondre avec ces feux de camp. Une autre étape en fait dans la pollution et de ce qu'on sait des conséquences de la pollution plastique sur les milieux marins et donc indirectement sur nos systèmes de vie en général, c'est que ces petits morceaux de plastique forcément vont rentrer aussi dans une composante, dans un cycle de vie, et que on ne sait pas aujourd'hui à quel point, donc là les nouveaux programmes, c'est savoir jusqu'à quel point ça va impacter la faune, la flore, qui vont en fait sûrement essayer de se nourrir de ces plastiques, etc.
On va voir la laisse de mer ?
Ouais.
Ah, tiens.
Voilà, un papier de sucette.
Un papier de sucette.
C'est quand même un petit trésor à chaque fois.
C'est une drôle de manière de parler du plastique, mais... Ah, un petit bleu là.
Là on est sur du macroplastique. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand on arrive sur du microplastique, donc encore un plus petit que le macro. Ouais. En ce moment, il y a plein de petites billes qui sont sur les plages, qui sont des billes de plastique pur en fait, qu'on trouve, qui vont aider à la fabrication du plastique. Depuis quelques semaines, quelques mois, on en trouve énormément sur les plages. On appelle ça des larmes de sirène. Et c'est transparent, donc c'est un diamètre de 4 mm, c'est rond. Et là, par exemple, ça serait impossible avec tous ces petits cailloux qu'on a sur la plage, de toutes les couleurs, qui ont une opacité relative. Là, ce serait impossible de les trouver. Mais certainement qu'il y en a.
Alors on va à côté, à Roche-Percée. On est en haut de rivière et c'est très sec. Hein.
C'est très très sec. Le petit cours d'eau est vraiment petit.
Parmi les plus intrigants témoins de l'évolution des climats, les coraux ont toujours fasciné. Les coraux développent un squelette calcaire qui incorpore des éléments chimiques contenus dans l'eau. Ils peuvent fournir des informations sur la température des eaux de surface, la salinité ou encore la présence de pollution d'origine humaine sur des échelles de temps extrêmement grandes.
L'histoire du phénomène récifal et des coraux est une longue saga qui a commencé il y a environ 550 millions d'années. À l'Antiquité, les Grecs pensaient que les coraux, compte tenu de la morphologie de leur squelette, étaient simplement des fleurs qui étaient pétrifiées sous la forme de roches. Bien entendu, nous savons maintenant qu'il s'agit d'organismes invertébrés qui ont la capacité donc de s'enfermer dans un squelette protecteur de nature calcaire.
Lucien Montagioni est aujourd'hui professeur émérite en géosciences à l'université d'Aix-Marseille. Il a commencé ses recherches comme cela, avec un masque et un tuba, parfois des bouteilles de plongée, dans les récifs coralliens de la Réunion et de l'île Maurice. Il a permis de comprendre à quel point les coraux sont des indicateurs importants des climats du passé.
Les coraux sont les plus grands bâtisseurs que la Terre n'ait jamais connus. Ils sont capables de produire des édifices qui font plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Ce phénomène récifal, qui est visible évidemment sous les tropiques, sous quelques mètres d'eau, se retrouve aussi à grande profondeur, dans des eaux froides, jusqu'à des profondeurs de 6000 mètres. Les premières formes coralliennes véritablement attestées datent de 480 millions d'années. Elles ont vécu jusqu'à la première grande crise biologique qui est dite la crise de la fin du Permien, c'est le terme consacré, qui a affecté notre planète il y a environ 251 millions d'années. Elle s'est traduite par la disparition totale de ces premiers coraux. Il a fallu attendre un certain nombre de millions d'années pour que les coraux réapparaissent. Les coraux actuels sont les descendants directs des coraux qui sont apparus il y a environ 230 millions d'années. Ce sont les mêmes groupes d'organismes qui ont survécu. Alors que d'autres organismes ont totalement disparu à chacune des crises, et les coraux ont passé chacune des crises sans trop de problèmes. Lorsque un corail subit un stress, sa façon de réagir, sa réponse au stress est dans un premier temps de libérer les algues qui vivent dans ces tissus. Et libérant ces algues, à ce moment-là, il ne subit plus les contraintes environnementales, en particulier les contraintes liées à la profondeur. Et lorsque le corail est libéré de ces algues, à ce moment-là, il a la capacité de se déplacer en profondeur où les conditions environnementales, évidemment, étant un milieu plus protégé qu'en surface, il pourra survivre. Évidemment, cela ne se fait pas en quelques jours. Il faut des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, pour que la colonie en question, et surtout ses descendants, s'adaptent aux nouvelles conditions et puissent progressivement descendre à plus grande profondeur, s'y installer. Lorsque les conditions environnementales vont devenir plus favorables, eh bien, l'espèce va récupérer donc ses algues et à ce moment-là, elle va pouvoir se réinstaller au voisinage de la surface et construire de nouveaux récifs. La question actuelle est que les coraux sont confrontés à un réchauffement climatique sur une période de quelques décennies. dans les régions perturbées aussi bien par l'activité humaine que par le changement climatique, il est clair que dans ces conditions-là, les coraux n'auront pas la capacité adaptative leur permettant de s'adapter aux nouvelles conditions. Et cela pour conséquence, bien entendu, ce qu'on appelle le phénomène de blanchissement corallien qui se traduit à terme par la mort de la colonie.
La roche percée, magnifique. Elle est très différente, cette petite crique.
Bah déjà, c'est du sable, assez fin en plus. Et là, on voit la différence quand même, c'est flagrant au niveau de... Alors soit la plage a déjà été nettoyée il n'y a pas longtemps, ce qui est possible aussi,
oui.
Soit on voit qu'en fonction de la configuration en fait, de la plage, c'est pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes chances de trouver du plastique. Là, c'est large, c'est du sable, on est sur une marée haute, donc on n'a pas beaucoup de facteurs... permettent. Mais en fait, là où je suis curieux, c'est qu'il y a des petites grottes et que j'aurais aimé m'aventurer dans les grottes, si c'est possible, avec la marée. Là, il y a une première petite grotte. Ah oui. Ah oui.
Ah. Mini grotte, mini fer.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est les gros morceaux qui viennent se coincer et il faut réussir à les décoincer. Parfois, c'est un peu compliqué.
C'est un gros bout de bidon. Hein. Bidon bleu.
Ça se demandait même comment est-ce qu'ils ont réussi à se coincer dans des endroits aussi petits. Là, ça va être impossible de l'enlever, je pense. Et ouais, dans le fond, il y en a plein aussi.
Oh. Ah ouais, tout au fond, niché là-bas.
Exactement.
Ah mais il y a carrément un filet presque entier.
Ah non, mais là, c'est, on est sur un fond de poubelle, en fait, là, tout simplement. Oh là là, mais c'est coincé de partout en fait. Bon, ben on est obligé de.
Ouais. On va retourner parce que sinon on va pas pouvoir. On va être bloqué avec la marée.
La campagne océanographique est l'étape numéro 1 des recherches qu'on fait. C'est ce qui nous permet d'aller chercher et collecter des sédiments. Dans les zones où justement on a un très haut taux de sédimentation, on parvient à reconstruire les derniers siècles. On voit la trace de la pollution, on peut voir carrément des morceaux de plastique ou dans des zones qui sont très fréquentées par la marine, toutes les marines en fait, marchandes ou toute l'activité anthropique laisse des traces. On trouve parfois dans les carottes qu'on remonte, ça nous est arrivé de trouver des débris pas seulement de plastique d'ailleurs, ça peut être des débris de verre, ça peut être n'importe quoi. Mais une fois qu'on mesure, on voit des signes de changement, tous les changements qui sont en cours. La température, l'acidité, la façon dont les organismes sont en train de changer face à l'acidification. Et donc, oui, c'est sûr que le changement, il est là, il est visible.
C'est sans doute grâce au développement de la flotte océanographique française que l'on a pu percer bien des mystères de l'évolution des climats. Elle a permis d'aller forer les fonds des océans pour remonter des carottes de sédiments à analyser. À l'instar des coraux, les foraminifères, eucaryotes, organismes unicellulaires, sont également apparus il y a 500 millions d'années au Cambrien. Depuis, ils sont une composante majeure des sédiments marins. Ils possèdent également une enveloppe calcaire, mais ils sont beaucoup plus petits que les coraux et ils ne vivent que quelques mois. Ils peuvent donc nous renseigner sur les climats du passé sur des échelles de temps très rapides. Guillaume Leduc, chercheur au CNRS, au laboratoire Cerej d'Aix-en-Provence, est spécialiste des foraminifères. Il a participé à de nombreuses campagnes océanographiques. Et vous partez avec le marion, par exemple ?
Le marion Dufresne, c'est effectivement le fleuron de la flotte océanographique française qui permet d'avoir de carottes de très bonne qualité et qui peuvent remonter très loin dans le temps. Donc on a un carottier en métal dans lequel on a en fait des tuyaux en PVC qui vont collecter cette boue, ce sédiment marin. Et lorsque ce sédiment remonte sur le pont, un petit peu comme si on regardait une immense seringue pleine de boue, on va pouvoir après lire dans ce sédiment un petit peu comme un livre, en tournant les pages, et remonter le temps au fur et à mesure qu'on lit le livre. On trouve toujours des foraminifères. La première chose qu'on fait quand on arrive au laboratoire, justement pour dater au carbone 14, c'est qu'on utilise ces coquilles de foraminifères. Alors un foraminifère, c'est du zooplancton. Il va fabriquer des loges en calcaire qui mesurent quelques centaines de micromètres, donc une fraction de millimètre. On peut les reconnaître à la loupe binoculaire. Et ces microfossiles, si on a l'œil, on arrive même à déterminer leur espèce, à savoir s'ils ont vécu en surface, s'ils ont vécu en profondeur, ou s'ils ont même vécu à l'intérieur du sédiment. Il faut savoir qu'il y a les foraminifères planctoniques qui vivent en surface, qui circulent au gré des courants, qui ressemblent un petit peu à du pop-corn. Les foraminifères benthiques, eux, vivent au fond du sédiment. Ils vont donc échantillonner l'océan profond, cette fameuse circulation profonde. Ils ressemblent plus à des pommes de pin ou à des petits escargots. Et on va essayer d'en sélectionner un que l'on reconnaît. Si on veut, par exemple, échantillonner la surface de l'océan, on va aller chercher une espèce qui vit en surface de l'océan. Et il ne faut pas avoir bu beaucoup de café parce que aller piquer avec le bout d'un tout petit pinceau un foraminifère que l'on aura reconnu, ça demande assez de dextérité.
Ce sont des archives.
Ce sont des archives très utiles. On sait que certains foraminifères aiment les eaux chaudes, certains foraminifères aiment les eaux froides. On va pouvoir déterminer les températures à partir de ce que l'on appelle les assemblages de foraminifères, donc voir la population tout entière. Et on va pouvoir aussi mesurer certains éléments chimiques dans leur squelette directement, qui vont nous donner plein d'indications sur les températures, sur les salinités, etc., etc.
Depuis quand vous vous intéressez à la question du plastique et de l'océan ?
Bah depuis toujours. Je suis issu de la mer. Je viens d'un milieu insulaire, d'une famille de marins-pêcheurs à Belle-Île-en-Mer. Et donc, inévitablement, c'est des questions qui... en tout cas, la question de l'océan, l'omniprésence de l'océan, elle est présente depuis toujours, en fait, dans mon éducation et dans mon développement personnel. Et donc, la question du plastique, elle est venue naturellement j'ai fini mes études en école d'art, où il était évident pour moi qu'en tant qu'artiste, j'allais travailler sur des questions qui allaient être liées à l'océan, à la préservation de l'océan. Et la question du plastique, bah, c'est quand même très facile de pouvoir l'aborder en tant que plasticien, tout simplement aussi. C'est que le plastique, ça reste un matériau qu'on peut travailler aussi. Et c'est surtout que bah, le plastique, il fallait qu'il soit traité aussi dans le champ de l'art. C'est-à-dire qu'un artiste, à mes yeux, il est aussi vecteur d'émotion, vecteur de sensibilisation, et qu'il y a la science d'un côté, il y a l'art de l'autre. Et je pense qu'on peut faire un mélange des deux. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le travail avec le plastique.
Alors, vous faites une veille aussi scientifique sur l'état des connaissances.
J'ai quand même un pied dans les milieux océanographiques. J'ai été médiateur scientifique. Donc, aujourd'hui, je sais où aller chercher. Et donc, oui, il y a ce travail de recherche qui est hyper important pour ne pas juste balancer de l'information. Et moi, j'ai envie de la comprendre avant de pouvoir la traiter. Et c'est-à-dire que je suis capable d'expliquer ce que je vais faire, le contexte, les enjeux. Et je ne me décrirai jamais comme scientifique parce que je ne le suis pas. Mais c'est important d'avoir une connaissance suffisamment solide pour pouvoir entreprendre ce type de travail. Et puis même pour moi, en fait, c'est hyper important.
Alors, avec ce sac qu'on a ramassé, là, pendant très peu de temps, on y a mis quoi, 20 minutes peut-être à... Donc il y a une moitié de sac plastique qui est rempli. Vous allez fabriquer quelque chose ?
Je vais refaire des plastiglomérats. Donc les plastiglomérats, ce sont ces glomérats de pierre cimentés par un plastique fondu qu'on a retrouvé sur les plages de Hawaï. Cette découverte scientifique est aujourd'hui un des sujets majeurs de ma pratique artistique. J'essaye de recréer artificiellement ces plastiques glomérats dans mon atelier à partir des plastiques qu'on a ramassés du coup ce matin. J'ai une pierre que je vais mouler, que je ne vais pas directement utiliser. Je vais couler mon béton dedans, dans lequel ensuite je vais rajouter les plastiques qu'on a ramassés ce matin. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que là, on est sur des témoins directs de notre impact sur le climat, sur l'environnement. On est sur une ère de l'Anthropocène.
On trouve donc de bien étranges sédiments dans les fonds marins. Ce auquel on s'attendait le moins, ce sont les pollens. En effet, l'histoire de la Terre est celle de l'alternance de périodes chaudes et de périodes froides, chacune avec une végétation caractéristique. Les pollens s'envolent, retombent sur la surface des rivières ou de l'océan. Ils finissent dans les abysses, emprisonnés dans les sédiments marins. Ainsi piégés, ils sont presque inaltérables. Maria Fernanda Sanchez-Goni, directrice de recherche à l'École des hautes études de Bordeaux, a embrassé cette approche originale. En étudiant l'histoire de ces pollens, elle a permis de comprendre bien des processus climatiques.
Dans pratiquement toutes les séquences sédimentaires qui sont prélevées en profondeur, mais près des côtes, relativement près des côtes, à peu près à 100-200 km des côtes, et qui sont aussi proches des embouchures des fleuves, vous pouvez trouver des grains de pollen en grande quantité dans ces sédiments marins. Ce que l'on fait, c'est qu'on analyse ces grains de pollen et on peut remonter à la végétation source. Et de cette végétation source, on peut reconstituer aussi le climat sur le continent. Au début des années 2000, j'ai eu la chance de participer à plusieurs campagnes océanographiques. Et lors de ces campagnes océanographiques, nous avons carotté plusieurs séquences sédimentaires près des côtes européennes, dans les zones abyssales, parce que c'est dans ces zones-là où la sédimentation n'est pas perturbée. Et donc, nous pouvons avoir des enregistrements paléoclimatiques de haute qualité. Dans la carotte qui a été prélevée dans le dôme Gascogne, qui est à peu près entre 200 et 300 km loin des côtes, mais en face de Bordeaux, nous avons fait une découverte extrêmement intéressante qui touche à la dernière entrée en glaciation qui a eu lieu à peu près entre 80 000 ans et 70 000 ans avant le présent. En fait, il y avait des chercheurs américains qui avaient publié un papier dans Science et qui avaient vu que dans un moment dans lequel il y a une diminution de la quantité d'énergie solaire vers la Terre, à ce moment-là, les températures des eaux de surface de l'Atlantique Nord étaient chaudes, autour de 18 degrés, et que pourtant, il y avait une accumulation de glace. Donc c'était complètement paradoxal. Dans les carottes que nous avons prélevées dans le golfe de Gascogne, en particulier dans la carotte qui a été prélevée en face de Bordeaux, nous avons trouvé des clés pour vérifier si les chercheurs américains qui avaient publié son étude dans les années 70 disaient vrai. Tout au début, moi, je pensais qu'on s'était trompé dans l'analyse des échantillons. Parce qu'on dit, mais comment c'est possible que, avant, dans d'autres périodes, nous avons refroidissement de la mer, refroidissement du continent, et pourquoi, entre 80 000 ans et 70 000 ans avant le présent, nous avons un découplage de la température entre le continent et l'océan. Et on a vu, en analysant les grains de pollen et en même temps des organismes marins qui nous indiquent des températures des eaux de surface, nous avons vu qu'effectivement, quand la Terre se refroidissait, la mer se réchauffait. Donc avec cela, on validait cette théorie des paléoclimatologues américains et aussi, pas seulement de façon progressive entre 80 000 ans et 70 000 ans, mais également pendant la variabilité rapide, sur plusieurs cycles de 1000 ans.
Je vais chercher la suite. Hop. Hop, il y a ça. Et ça, c'est le nouveau.
Ça, tu prends ça aussi?
Tac. Peut-être ça aussi. Et moi, je prends le reste. Alors, j'ai tout un tas d'outillages. Donc, moi, voilà, c'est ça que j'ai. Après, là, ce matin, on a ramassé des plastiques. Je sais, par expérience, que ça, par exemple, je ne vais pas pouvoir le fondre. Mousse, caoutchouc, ça, on laisse tomber. Donc, ça, ça fond. Ça, ça ne fond pas non plus.
Donc,
tout ce
ça,
qui est mousse.
C'est mousse. Okay. Donc, ça, c'est des petits bouts.
Ouais.
Ça, vous les utilisez?
Oui, ça, ça fond. Okay. Ça, c'est nickel. Ça fait une belle texture. Ça, c'est des morceaux de casier. Alors, on va pouvoir couper tous les deux.
D'accord.
Mais des fois, quand ils ont pris trop la mer, c'est des plastiques qui sont gorgés de sel et ça ne fond pas.
Okay.
Ça fait brûler le plastique. Ça, on peut. Ça, on peut. Alors là, on a des gros morceaux de plastique qui sont des casiers de pêche.
Ouais. Jaune vert.
On a du bout, et sinon ça va être que du plastique d'emballage ou de bouteille ou des plastiques à usage unique. Ça. Pareil, ça c'est un pot de fleurs quoi. Un morceau de pot de fleurs quoi. Ça, une étiquette.
Et une date?
Il n'y a pas de date, mais il y a une marque. Ça, je pense que c'est produit alimentaire pêcherie. Ça y est, on est sur un morceau de seau. Bouchon, bout. Ça, plastique d'emballage de bidon. Ça, ça doit être du bidon, du seau aussi. Ça, ça fond aussi également. Petite fourchette en plastique. Alors celui-ci, à mon avis, il n'est pas tout jeune. Ça fait un petit moment qu'il est au bord de l'eau.
Il s'est mis à pleuvoir, c'est bon signe. Quelle récolte!
En peu de temps ce matin. Ok. J'ai des ciseaux, j'ai des pinces. Et puis bah là, l'idée c'est d'avoir des morceaux qui font entre 0,5 et 1 cm.
D'accord.
Et ça fait une belle matière.
En fait, on est en train de fabriquer des sédiments.
Un peu.
La récurrence de pluies abondantes inquiète bien des paléoclimatologues. Et parmi elles, bien loin de la Bretagne, dans l'océan Indien, le phénomène de la mousson. Elle arrive fin juin avec des précipitations torrentielles et de violents orages. Les vents connaissent alors une inversion de direction. Ils soufflent du sud-ouest pendant 6 mois, puis du nord-est les 6 mois suivants. Ils entraînent des variations climatiques très marquées. Les études paléoclimatiques révèlent combien les dynamiques des systèmes de mousson ont varié au cours du temps. Clara Bolton, chercheuse au CEREJ d'Aix-Marseille, a remonté jusqu'à la formation des continents pour en comprendre le fonctionnement. Peut-être aussi pour mieux prédire les risques de sécheresse ou d'inondation actuels en Asie du Sud-Est.
On étudie les moussons du passé pour essayer de mieux comprendre comment va réagir le système mousson avec le réchauffement futur qu'on prédit pour les 100 ans à venir et pour essayer de comprendre quel sera l'impact sur les populations en termes de ressources d'eau, d'inondations, de sécheresse et ce genre de choses. Les deux caractéristiques les plus importantes de la mousson sont les vents qui sont très forts et les précipitations très saisonnières, avec une grande abondance. Donc par exemple, pendant la mousson d'été en Asie du Sud, des vents très forts soufflent de l'océan vers le continent. Et ces vents très forts d'été induisent des remontées d'eau profonde et cet upwelling fait remonter des nutriments en surface. le plus il y a de nutriments, le plus il y a certaines espèces de plancton qui aiment beaucoup de nutriments. Du coup, on retrouve cette forte productivité dans ce qui est exporté dans les sédiments marins et sur des grandes échelles de temps. Donc, on peut regarder ce genre de changement sur des millions et des millions d'années. Ça devient plus complexe quand on regarde sur des millions d'années parce qu'on a aussi l'évolution des montagnes, de la paléogéographie, de la position des continents. Et tout ça, ça influence la direction de ces vents, leur intensité, où tombe la pluie, et tout ça. Donc il faut aussi avoir une compréhension de comment ont évolué tous les continents autour de la région. Et cette évolution paléogéographique a aussi une influence très forte sur l'évolution de la mousson à long terme.
La mousson, elle a toujours existé?
Toujours, c'est un concept... je ne sais pas ce que ça veut dire toujours, parce que après, on sait que dans les registres fossiles sur Terre, donc surtout des fossiles de certains types de plantes, qu'il y avait déjà un type de mousson existant pendant l'Éocène, donc c'est-à-dire il y a environ 50 millions d'années avant aujourd'hui. Et on sait que les pluies saisonnières existent en Asie depuis très très longtemps. Après, le système moderne de la mousson telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des fortes remontées d'eau profonde en été dans la mer d'Arabie par exemple, on sait que ça s'est établi beaucoup plus récemment, peut-être entre 10 et 15 millions d'années avant aujourd'hui, et que c'est lié à l'émergence de la plaque d'Arabie au-dessus du niveau marin. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements paléogéographiques sur le rift est africain, dans les montagnes iraniennes, et il y a plein de choses qui se sont mises en place qui ont permis au système moderne de s'établir. On sait aussi dans l'océan que depuis environ 11-12 millions d'années, les sédiments suggèrent qu'il y a eu des forts courants saisonniers qui se sont inversés comme ce qu'on a aujourd'hui. La circulation océanique a évolué en fonction des mouvements des continents, surtout. Donc, par exemple, l'isolation de l'Antarctique a créé un très grand courant circumpolaire qui a isolé l'Antarctique et qui a aussi contribué à permettre l'englacement de l'Antarctique il y a environ 33 millions d'années. Donc, la circulation océanique a des répercussions très importantes pour le climat et vice-versa. L'autre chose dans laquelle la circulation océanique est importante, c'est la redistribution de la chaleur sur la Terre. Donc, si on a un climat équitable dans l'Europe de l'Ouest, c'est à cause du courant de surface, le Gulf Stream, qui remonte de l'Atlantique tropical vers l'Atlantique du Nord et qui nous adoucit énormément notre climat par rapport à si ce courant n'existait pas. Donc cette redistribution de chaleur est très importante pour maintenir les climats qu'on a sur différentes zones aujourd'hui.
Le Gulf Stream, il pourrait s'arrêter ?
Des études démontrent que son intensité peut être affectée par des changements de température. Mais au point de s'arrêter, c'est pas encore sûr. Mais c'est sûr que si les gradients de température sont moindres, c'est possible qu'ils ralentissent. C'est flippant des fois.
Où est-ce que vous avez ramassé du plastique par ailleurs qu'en Bretagne par exemple?
Bah déjà j'ai fait une bonne partie de la Bretagne, de collecte en Bretagne. Je suis allé un peu partout. Souvent je me greffe à des associations de protection et de sensibilisation des milieux côtiers. Donc l'association Surfrider par exemple, qui est peut-être la plus connue. Après, j'ai eu la chance de pouvoir monter aussi à bord d'expéditions à la voile, de voiliers, qui embarquaient des artistes à leur bord. Et je suis allé jusqu'en Arctique, comme ça, au Groenland, où pendant un mois et demi, deux mois, je suis resté à faire des collectes de plastique pour pouvoir réaliser... cette fois-ci, c'était pas des plastiques Gomera, mais un projet que j'ai fait avant de commencer les plastiques Gomera qui s'appelle Balise. Je suis entièrement que sur le plastique et je réalise des bouées, comme des bouées d'amarrage, d'où le nom Balise. Tout est venu en fait de la notion d'accumulation au tout début de ce projet. C'est que c'était le mot qui revenait le plus, l'accumulation de plastique dans l'eau, l'accumulation de plastique sur la côte, l'accumulation. Et en fait, bah, moi, ma mission là-bas, ça a été de ramasser ce plastique pour pouvoir ensuite réaliser ma sculpture qui est restée sur place.
Maintenant, cette balise, elle est où ?
Maintenant, cette balise, elle est restée à Okhradsout. Elle est positionnée à l'extérieur du village, devant une petite maison construite carrément sur les rochers. C'est, alors pour s'imaginer, on a la montagne derrière nous avec un glacier qui est quand même pas très très loin, avec ces petits ruisseaux, ces petites cascades d'eau gelée qui se jettent directement dans ce fjord. Et face à la balise, c'est un champ d'iceberg avec le village à quelques mètres derrière. En fait, l'idée, c'est que chaque balise représente un lieu de collecte précis ou un ensemble de lieux de collecte. Donc, bien évidemment, celle d'Okhradsout, c'était avec le plastique ramassé à Okhradsout. Celle que j'ai fait avec Brest, c'était avec le plastique que j'ai collecté à Brest et dans la Rade. J'en ai fait une qui était plus sud de Bretagne, donc j'ai essayé de me déplacer que sur les îles du Ponant, donc les îles bretonnes. Et donc chaque balise est complétée avec un petit écriteau qui explique le nombre de kilos de plastique qui a été ramassé, allez, en combien de temps le plastique a été ramassé, avec qui je l'ai ramassé. Et ça nous donne une idée visuellement de la quantité de plastique, d'où l'accumulation.
On va regarder sur la balance ?
Oui.
Ah ouais, on est à 1,171 kg.
1,171 kg, ah. J'avais dit 800 moi.
Pas mal. La prochaine étape, c'est la fonte.
Ouais.
On va laisser
là-dedans. C'est pour ça qu'il faut le faire un peu sécher.
Ok, hop. Il surgit parfois des perturbations dans la circulation atmosphérique entre les pôles et l'équateur. Surviennent alors de vastes zones de précipitation dans l'est de l'océan Pacifique qui altèrent la remontée habituelle de l'eau froide le long de la côte de l'Amérique du Sud. Ce phénomène, appelé El Niño, est encore très mystérieux. Cette anomalie dans la circulation atmosphérique comme océanique peut dérouter des cyclones, déréguler rapidement des zones de précipitation, comme de sécheresse, ou influer sur le niveau des mers. Ce phénomène extrême revient régulièrement. C'est sans doute cette récurrence qui intrigue Guillaume Leduc, chercheur au CEREJ à Aix-en-Provence, comme bien des paléoclimatologues.
El Niño, c'est un phénomène climatique qui revient tous les 3 à 7 ans, donc qui est apériodique. Et on appelle ça El Niño simplement parce que l'apogée de ces événements climatiques arrive pendant Noël. Et El Niño, c'est l'enfant Jésus. C'est en fait un phénomène qui est caractérisé par une augmentation des températures le long de l'équateur dans l'océan Pacifique. Et cette augmentation de température est anormale. Il se fait tous les 3 à 7 ans. C'est simplement un système de bascule entre l'océan Pacifique Ouest et l'océan Pacifique Est le long de l'équateur.
Il y a une conséquence directe avec les populations.
Il y a une conséquence directe avec les populations parce qu'on parle souvent du climat moyen dans une centaine d'années. Mais il suffit souvent de 2 ou 3 ans de sécheresse les unes après les autres qui en fait vont perturber complètement les sociétés à des échelles de temps beaucoup plus restreintes. Par exemple en France, avec l'été 2022, les nappes phréatiques n'ayant toujours pas été reconstituées avec les pluies hivernales, si on se tape une autre année aussi sèche, vous pouvez imaginer que d'ici 2 ou 3 ans, nous n'aurons probablement pas besoin d'attendre la fin du siècle pour nous rendre compte de l'impact de ces événements extrêmes. Par exemple, on s'attend à la montée en puissance d'un événement El Niño pendant l'année 2023 et on sait qu'à l'échelle globale, les événements El Niño sont des records de température. C'est-à-dire que dès qu'on entend aux informations qu'une année est la plus chaude jamais enregistrée, c'est très souvent une année El Niño. Ça ne se ressent pas forcément en France, mais ça a des répercussions sur les incendies en Indonésie, sur les inondations au Pérou, sur les cyclones en Atlantique. et certains endroits sont beaucoup plus arrosés que d'autres et risquent des inondations. Certains endroits sont beaucoup plus secs que d'autres et les feux de forêt et les sécheresses sont impactés par El Niño. Et tout est là, en fait, dans ce que l'on cherche, nous, à reconstruire loin dans le passé, en cherchant des analogues, en cherchant des périodes qui ressemblaient à ce que l'on pourrait s'attendre d'ici la fin du siècle.
Alors, on retrouve le plastique, il est sec?
Ouais, je pense que là, ça va être suffisant. Donc là, maintenant, l'étape, ça va être prendre ce plastique qu'on a coupé en petits morceaux. Morceaux de bout, morceaux d'emballage plastique, de bouchon, donc avec des plastiques qui n'ont pas du tout la même composition. Il y en a qui vont très bien fondre, qu'on ne va pas reconnaître. Il y en a d'autres qu'on va reconnaître, mais c'est ça qui fait l'intérêt de la pièce. C'est qu'une fois fini, je laisse des traces, en fait, je laisse des indices pour comprendre que c'est bien du plastique. Je vais essayer de presser. C'est très joli. Hein.
Multicoloré, ouais, c'est très très beau. C'est assez fou. On retrouve les couleurs qui sont enchevêtrées parfois les unes dans les autres et en fait parfois pas du tout.
On se rapproche presque de la peinture à certains moments. On voit que c'est complètement aléatoire, mais là ce matin on a malheureusement des plastiques qui ont des couleurs assez jolies. Donc on a un résultat qui est joli. J'ai conscience que c'est du déchet. Ce matin, j'ai utilisé le mot « petit trésor » sur la plage. On cherche dans les coquillages comme on chercherait des verres polis. Malheureusement, c'est un peu ça, quoi. Voilà, donc là, on a une première galette. Donc là, on va pouvoir passer ça. Au ciment. J'ai mon petit gobelet doseur. Une fois que le béton commencera un peu à durcir, je vais poser les galettes qu'on a faites pour qu'elles s'emprisonnent dans le béton, qu'elles soient coincées aussi avec. Et que ça donne l'impression qu'on a fait une coupe franche et nette dans la pierre et qu'on, à l'image de l'agate, on est ce fossile qui apparaît. Ça me paraît pas trop mal. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu.
Ce plastique glomera, un scientifique pourrait le retrouver dans 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans.
Et il n'aura pas bougé. Il n'aura pas bougé et encore une fois, là je suis sur de l'objet complètement artificiel. Peut-être que le scientifique, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'aura plus besoin de réaliser ses faux plastiques glomérats. Il les trouvera peut-être naturellement, je dis bien naturellement, sur la plage et pas que à Hawaï.
Alors, on ne sait pas si c'est un document ou si c'est quelque chose de dystopique.
J'ai créé un scénario, j'ai créé une histoire autour de ce projet-là, mais qui repose sur des faits réels. Et c'est là, en fait, où moi je trouve intéressant d'intervenir en tant qu'artiste. Ce travail-là, moi je le place comme un objet de sensibilisation, de médiation qui va permettre de comprendre en fait que ce que j'ai créé est complètement dystopique, mais qu'en réalité, si on continue comme ça, si le plastique continue d'évoluer, de se confondre avec une formation naturelle qui est les formations géologiques, effectivement, là, on n'est plus du tout dans la dystopie, on est carrément dans un objet qui est documentaire.
Décennie après décennie, les chercheurs ont révélé bien des données inquiétantes sur les océans. Claire Valbrock a travaillé de très nombreuses années sur les océans anciens au laboratoire des sciences de Gif-sur-Yvette. Aujourd'hui, à la Sorbonne, elle se concentre sur la circulation de l'océan actuel et dresse un constat.
J'ai travaillé pendant longtemps sur les derniers 40 000 ans. Et donc, ce que je voulais, c'était pouvoir reconstruire en détail les changements climatiques très rapides, une vingtaine ou une centaine d'années, mais pas 3 000 ou 5 000 ans. Parce qu'on a besoin de pouvoir reconstruire des changements qui ont eu lieu en quelques centaines d'années. On a des changements qui sont d'une brutalité extrême et qui ne sont causés par rien d'autre que la façon dont les différents composants du système climatique interagissent. C'est la même chose que ce qu'on appelle en langage courant un cercle vicieux, et c'est la boule de neige. Donc on a quelque chose qui démarre et qui s'amplifie, et qui s'amplifie de plus en plus en fait. C'est un phénomène qui se nourrit lui-même, qui ne cesse d'augmenter, c'est une augmentation exponentielle. Et la seule façon d'en sortir, c'est qu'à un moment, il y a un autre processus qui se met en marche et qui freine. Sinon, on a un emballement complet, une explosion. On sort du système, on sort des gonds. Et on est face à ce genre de processus actuellement de nouveau. En fait, ils sont là. C'est de la physique du système. On est dans une situation où on pourrait déclencher un changement très rapide et très brutal. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer de les quantifier, de les comprendre, de savoir quand ils pourraient se déclencher et dans quelles conditions. Typiquement, les changements auxquels je pense, c'est des changements avec une circulation océanique qui bascule d'un régime qui est le régime qu'on connaît maintenant à un régime où on aurait des courants qui cessent d'arriver à certains endroits et qui plongeraient à plus basse latitude. Donc on pourrait imaginer que parce qu'on est en train de fondre le Groenland, l'eau devient tellement douce dans les mers nordiques qu'elle ne parvient plus à plonger en profondeur et à alimenter les courants atlantiques profonds actuels. Dans ce cas-là, l'énergie solaire et la chaleur qui est amenée des tropiques vers les hautes latitudes et les mers nordiques ne serait plus transportée aussi loin au nord et on pourrait avoir un refroidissement local. Donc on a des choses comme ça qui peuvent basculer et qui peuvent avoir un impact énorme sur des régions entières. Ce qu'on voit dans les archives climatiques, ce sont des bascules qui prennent quand même un certain temps. C'est pas instantané, c'est pas ce qu'on voit dans les films hollywoodiens. Le jour d'après, c'est pas ça qu'on peut craindre. Par contre, ça pourrait se passer en une décennie ou quelques décennies, on va dire. Voilà, c'est cet ordre-là, quoi.
C'était « Dans les vestiges des anciens climats », épisode 3, « Lire les tréfonds des océans ». Avec Esteban Richard, Clara Bolton, Lucien Montagioni, Claire Valbruck, Maria Fernanda Sanchez-Goni et Guillaume Leduc. Prise de son, Geoffrey Marianne, Raymond Albouy. Mixage, Antoine Viosa. Stagiaire, Myriad Izard. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran et Johanna Bedeau. À suivre, épisode 4, sur les traces des anciens feux.